À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. La lutte contre Boko Haram pour raison de sécurité depuis juin 2012, le gouvernement tchadien a proclamé zone rouge le bord du fleuve Chari entre le sud-est et le sud-ouest de la capitale N'Djamena. Décision qui entrave les activités des riverains et affecte leurs revenus. Des précisions avec notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Qualifiée en son temps comme mesure impopulaire et antisociale par la société civile, cette décision a été abandonnée tacitement quelques mois après son application. Mais en juin 2015, la mesure a été réactualisée par le gouvernement suite aux attentats kamikazes perpétrés à N'Djamena par Boko Haram. Ainsi, la traversée de cette zone déclarée zone rouge, les activités socio-économiques telles que la pêche, les marécages et les blanchissages sont strictement interdites. Béro Marc, un père de famille, affirme que toute sa vie est au bord du fleuve.
Moi, c'est depuis le CM2. C'était en 2001. Avec cet argent-là qu'on a fréquenté, jusqu'à arriver à un niveau, maintenant nous sommes mariés, c'est grâce à cet argent que nous nous occupons de notre petite famille, tout ça. Un Tchadien voit un Tchadien, il le reconnaît facilement. Venir directement et confondre tout le monde et dire que tout le monde est ceci, cela, là, c'est ça, là, qui n'est pas bon.
À quelques mètres de lui, l'homme et Francis, un jeune bachelier et ses amis, exploitent le sable depuis plusieurs années. Cette activité leur rapporte 60 000 à 70 000 francs par mois. Ne sachant que faire face à cette décision, ils sont obligés de négocier avec les agents de la commission mixte pour la sécurité de la ville de N'Djamena pour assurer leur survie.
J'ai duré à peu près 17 ans, j'ai fait ici au bord. On tente même quelquefois des concours, ça ne tient pas. Vu la situation du pays, avec la corruption, tout ça, aller voler là, on voit que ce n'est pas bon. On ne connaît pas d'autres activités que ça. Au début, ils ne les ont pas compris. Ils étaient venus ici pour nous interdire carrément. On s'est organisé pour aller les voir, les poser, nos doléances. Donc, il nous a compris. Mais au moment qu'ils travaillent et qu'on voit leurs hors-bord viennent pour faire leur contrôle, il faudrait qu'on s'arrête nos activités. Bon, quelquefois, ils viennent, ils ne nous imposent pas, mais c'est à notre volonté même, on leur donne quelque chose pour le thé.
Si les autres exploitants s'entendent avec ces agents de sécurité, Bessanger Richard Didier, un fabricant de briques, la trentaine révolue, a du mal à exercer son activité.
Parfois, on vient, il y a d'autres qui nous menacent à ce qu'on ne travaille pas. On retourne à la maison dans la nuit ou après qu'on ne le voit pas d'abord. On risque de se descendre pour mieux travailler dans 30-45 minutes. Depuis même à nos ancêtres, là même, ça, on vivait avec. C'est pas aujourd'hui qu'ils devraient suspendre à ce qu'on ne vient pas au bord. Avant, les briques qu'on gagnait, 300-400 000 par mois. Maintenant, là, même pas 100 000.
Le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a indiqué que cette mesure sécuritaire reste non seulement en vigueur, mais elle est renforcée et élargie tout le long du fleuve Chari jusqu'au sud du Tchad, malgré qu'elle restreint les activités économiques. André Kodumajingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
En RCA, Bangui fait face à une forte pénurie de produits de première nécessité, motif la grève illimitée des transporteurs camerounais qui réclament davantage de sécurité sur la route nationale numéro 1, principale voie de ravitaillement de la capitale centrafricaine par le Cameroun. Le point avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Grâce, 33 ans, vit avec son époux et ses trois enfants dans le premier arrondissement de Bangui. Cette paralysie provoquée par la grève des camionneurs camerounais a des répercussions directes sur sa famille.
Oui, effectivement, ça nous entraîne dans notre ménage. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va au marché, les prix des oignons, d'huile, des aliments et des condiments augmentent. Et là, même avec 2000 francs, on ne peut plus faire à manger.
Ici, à la gare routière connue sous le nom du BARC, le bureau d'affrètement routier centrafricain, les stocks des produits entassés sont épuisés. Plus de ciment ni de produits de première nécessité. Situation qui n'arrange pas les commerçants, très inquiets de voir leurs capitaux chuter. Igor Mamadou est vendeur à la gare routière. Il appelle le gouvernement à un dialogue rapide avec les conducteurs camerounais.
Vraiment difficile de s'asseoir maintenant. On a difficulté parce que les convois n'ont pas venu et puis on n'aura pas de bagages à payer pour vendre. Je demande au gouvernement de faire un effort pour appuyer ces conditions pour que ça soit arrangé.
Autre répercussion de ce blocus, le chômage des chargeurs qui se compte par centaines aux barques et la faillite de certains vendeurs à la sauvette. C'est ce que remarque ce passant.
Il n'y a pas d'activité. Il y a des gens qui vont souvent par terre. Comme d'habitude, vous le voyez, ils vendent des oignons, des ciments par-ci, par-là. Et vous voyez que du moment où il n'y a pas ça, ils sont obligés de retourner dans le quartier. Le gouvernement, c'est d'essayer de voir, tenter de dialoguer avec ses frères conducteurs camerounais. S'ils peuvent rentrer vraiment dans l'ordre, vraiment ça se... un sujet de remerciement du part des commerçants.
Trois semaines aujourd'hui après ce blocus imposé par les camionneurs camerounais pour exiger plus de garanties de sécurité, tous les yeux sont tournés côté centrafricain vers les autorités de la transition. Grâce demande elle que l'FAKA, l'armée nationale centrafricaine, soit redéployée en appui à la MINUSCA, la force de l'ONU, pour sécuriser les convois.
Et là, ce que je propose, c'est qu'il faut que les FAKA puissent également entrer sur le terrain, comme ça, ça permet de faciliter les choses.
Côté gouvernement, on assure que des négociations sont en cours entre les deux voisins pour décompter cette situation qui n'a fait que trop durer. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, le gouvernement a mis en garde la MINUSMA, la mission de l'ONU, contre tout traitement inéquitable suite à sa mise en place d'une zone de sécurité autour de Kidal dans le nord, fief des rebelles de la CMA, après les combats meurtriers entre ce groupe et la formation pro-gouvernementale Gatia. Cette dernière demande à la MINUSMA de sursoir à l'établissement de cette zone. Maître Haroun Na Touré, porte-parole de la plateforme des mouvements d'autodéfense.
L'AMINUSMA est censé venir aider à apporter la sécurité sur notre territoire. De dire à l'AMINUSMA de mettre fin tout de suite à cette zone dite de sécurité qui n'est en réalité qu'un camp de concentration qui a été créé dans le seul dessein de permettre aux gens de la CEMA, un, de s'organiser, se mobiliser pour nous attaquer les populations aussi bien à l'intérieur de Kidal qu'à l'extérieur. Deux, de permettre à la CEMA de martyriser davantage nos populations, de les tuer à huis clos sans que personne ne sache ce qui s'y passe. Voilà ce que nous demandons au gouvernement du Mali de faire, avec le soutien de toutes les populations du Mali. Il faut que cette zone dite de sécurité sorte tout de suite. Voilà notre objectif. Et nous disons ceci, si avec la complicité de la MINUSMA, des combattants de la CEMA venaient à nous attaquer sur nos positions en sortant de Kidal, nous ne garantissons pas du tout que nous ne poursuivrons pas jusqu'à Kidal, advienne que pourra.
Maître Haruna Touré de la plateforme, au micro de Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako. Après la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso, un comité national de suivi de la libre circulation des véhicules de transport ainsi que des personnes et des biens vient d'être mis en place au Togo. Des précisions avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Les populations de notre espace communautaire ne circulent pas librement.
Cette affirmation est du directeur de la libre circulation et du tourisme de la commission de la CEDEAO. Mfali Sano fait la mer constat qui pousse la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à opter pour une stratégie dite innovante.
Il y a des entraves qui subsistent ça et là, des raquettes, des pertes de temps. La CEDEAO, consciente de cette réalité, s'est engagée à mener un combat permanent pour faciliter la mobilité des populations dans notre espace communautaire. Et c'est pourquoi la CEDEAO vient de mettre au point un mécanisme innovant qui consiste à regrouper les différents corps de contrôle, ce qui va avoir un impact sur la rationalisation des postes de contrôle, mais aussi ceci va procurer un gain de temps aux véhicules de transport des personnes et des marchandises.
En harmonie avec sa nouvelle politique, la CEDEAO met en place des comités nationaux de suivi de la libre circulation des véhicules de transport des personnes et des biens qui regroupent tous les acteurs du secteur. Ces transporteurs qui opèrent sur la nationale numéro 1 font partie du comité togolais. Ils disent avoir observé une réduction des postes de contrôle.
Avant, c'était vraiment un casse-tête chinois. Maintenant, ça va mieux. Avant, quand tu quittes, par exemple, Lomé pour aller à Saint-Cassé, tu es obligé, franchement, de traverser beaucoup de choses. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu veux faire un voyage de un jour, tu peux le faire en 48 heures. Tout ça, là, ça agit sur vraiment les dépenses.
Ce retard est dû aux arrêts, aux postes de contrôle qui existaient avant. Tu dois donner de l'argent avant de passer. Maintenant, ces postes tendent à disparaître.
Leurs confrères de l'axe Lomé-Cotonou ne peuvent pas en dire autant. Leur calvaire continue, nous dit ce conducteur. Moi, je fais l'axe Lomé-Cotonou. À la gare routière improvisée de Olando à Lomé, ce sont les policiers qui règnent en maître. À chaque chargement, ils prennent 1000 francs CFA sans délivrer de reçu. Tu n'as même pas le droit de demander à quoi sert cet argent. Alors qu'il y a d'autres frais à payer tout au long du voyage, notamment les péages et les syndicats. Cela nous fait trop dépenser et moi je dis, c'est du racket.
C'est 1000 francs à chaque voiture.
Le comité mis en place va œuvrer pour mettre fin à toutes les formes de tracasseries et de raquettes qui constituent non seulement des manques à gagner pour les États membres, mais aussi un frein pour l'intégration régionale. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Et pour terminer, en Côte d'Ivoire, une faction du Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo appelle au boycott de la présidentielle d'octobre en dénonçant ce qu'elle qualifie de mascarade aux conséquences imprévisibles. Cette faction est composée de partisans irréductibles de Laurent Gbagbo. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. No time, eh. Ay, la bracket, eh.